Europe 1.
8h18 et ce matin, notre invitée politique est la députée LREM des Yvelines. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Et bienvenue à distance. Nous vous regrettons évidemment de ne pas être en studio, mais on a bien compris que vous étiez coincée dans les embouteillages. Ça arrive malheureusement de plus en plus fréquemment. Aurore Berger, en début de semaine, le nouveau gouvernement sera présenté. Quel Premier ministre, à votre avis, pour cette renaissance ?
Je ne vais pas faire de conjecture sur le nouveau Premier ministre. Je crois que le Président de la République sait très bien qui il souhaite nommer. Il a en tout cas dit quel était le profil.
Vous pensez qu'il sait déjà très bien.
Je pense que le Président de la République, lui, sait et qu'il l'annoncera selon le calendrier qu'il a défini. Et qu'il a défini le portrait robot de celui ou de tel qui sera nouveau Premier ministre.
Oui, on peut dire celle. On parle beaucoup d'Audrey Azoulay. Vous qui venez de la droite, Audrey Azoulay, très ancrée à gauche, ça vous déstabilise pas ?
Déjà, moi j'attends de voir quelle sera la nomination et ensuite je me définis plus exactement de cette manière-là parce que je crois que les électeurs eux-mêmes ne se définissent plus uniquement par rapport à des vieux partis d'origine qui aujourd'hui sont quand même en déliquescence. Heureusement qu'on ne se définit plus par une ancienne appartenance ici à l'UMP ou au LR ou au Parti Socialiste parce que vous voyez bien qu'il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. On est en train d'essayer d'inventer quelque chose de différent et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 2017 et ça a été confirmé en 2022 par le vote des Français.
Oui, mais quelque chose de différent, c'est pas forcément n'importe quoi. Il y a des valeurs, qu'elles soient de gauche ou de droite.
Mais la personne que vous évoquez, il me semble pas que ce soit n'importe quoi pour reprendre vos propos. Donc, c'est aussi une identité, je crois, républicaine, universaliste, attachée à la laïcité, engagée sur la culture. Je ne sais pas si c'est elle qui sera nommée, mais en tout cas, elle partage et on partage un socle de valeurs qui est en effet un socle de valeurs commun. Et heureusement, regardez aujourd'hui dans la composition du gouvernement, vous avez Olivier Dussopt, Olivier Véran, qui viennent en effet de la gauche. Et puis vous avez Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, pour ne prendre que ces quelques exemples qui viennent de la droite. Est-ce qu'ils ne partageaient pas un socle de valeurs commun qui a permis aussi de donner une cohérence à la politique qu'on a menée depuis ces 5 dernières années ?
Aurore Berger, pour le soldat converti dès le début, j'allais dire dès février 2017, au macronisme, pour le soutien que vous avez été à toute heure du jour et de la nuit, on vous a eu sur les plateaux de télévision, de radio, dans la presse, vous avez soutenu Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour vous ?
Ce qu'il y a de prévu, c'est que je suis candidate aux élections législatives déjà dans les Yvelines et que j'espère évidemment que les électeurs me feront à nouveau confiance et que j'ai eu la chance et l'opportunité d'être députée depuis 5 ans, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, il me semble, et qu'on a besoin aussi d'avoir des parlementaires extrêmement solides et engagés. Donc, je ne sais pas quel sera mon avenir gouvernemental. Mais c'est la question très directe que vous me posez. Bah oui. Je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne vous le dirais pas, évidemment. Donc, ce que je sais, c'est que je suis engagée pour la réussite de ce quinquennat et que je suis engagée dans cette campagne électorale.
Aurore Berger, c'est ça le problème aussi du téléphone, c'est que je ne peux pas vous parler directement. Est-ce que vous avez une ambition gouvernementale comme vous l'avez eue précédemment ?
Mais vous savez que ce n'est pas nous qui décidons de notre avenir gouvernemental.
Bien,
et
je peux quand même vous interroger de savoir ce que vous aimeriez faire, Aurore Berger.
Et ce que je veux, c'est justement pouvoir faire. Et il me semble qu'en tant que parlementaire depuis 5 ans, il y a un certain nombre de choses qu'on a faites parce qu'on était député. Et que moi, les questions que j'ai portées, les questions républicaines et laïques notamment, les questions culturelles, les questions sur les droits des femmes, je les ai portées parce que j'étais parlementaire. Donc, ça ne m'a pas empêché de les porter parce que je n'étais pas membre du gouvernement.
Vous n'écraserez pas une larme cette fois-ci si vous n'êtes pas choisi au gouvernement.
Comme je ne l'ai pas fait précédemment, je ne le ferai pas cette fois-ci.
Si, et d'ailleurs, on a été très triste pour vous. Les carrières, rétrospectivement, Aurore Berger, on y pense, on y repense, on les retricote. Qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous aviez eu votre place au gouvernement au premier quinquennat ?
Mais encore une fois, moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai fait, ce qu'on a fait au sein de la majorité présidentielle depuis 5 ans. Vous savez, on a tout entendu sur cette majorité. On la disait trop fragile, on la disait prétendument illégitime, d'ailleurs. On avait déjà eu cette polémique il y a 5 ans, et c'est une majorité qui a tenu face à des crises qui ont été extraordinairement rudes, que ce soit la crise des Gilets jaunes, qui a aussi été malheureusement celle des intimidations ou des menaces envers les élus, y compris des menaces physiques que nous avons pu subir, et qui ont été quand même des atteintes très graves à la démocratie, évidemment, que ce soit aussi évidemment la crise sanitaire ou la plus récemment la guerre en Ukraine. Donc c'est une majorité très solide qui a réussi à tenir, et aujourd'hui nous présentons moitié de parlementaires qui sont des députés sortants, moitié de nouveaux nouveaux candidats aussi, parce que l'idée, c'est de continuer, évidemment, à renouveler l'Assemblée nationale comme on l'a fait, continuer la féminisation de l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Je recevais hier Roselyne Bachelot, elle me disait que la première fois elle a été députée, il y avait 5% de femmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est 40%, preuve que c'est aussi possible de faire ce choix de renouvellement, de diversité, de féminisation.
Jean Castex, hier, a dit à ses ministres, n'oubliez jamais que nous sommes que des serviteurs. L'action politique est une action collective, les ambitions sont légitimes, mais elles ne valent que si elles sont au service du collectif. Est-ce que vous pensez, non seulement, là je ne vous interroge plus sur la composition du gouvernement, mais est-ce que dans notre France aujourd'hui, on manque un petit peu de serviteurs? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop d'ambitieux?
On a une société qui est aussi, de manière générale, devenue plus individualiste. Je crois qu'on peut tous malheureusement le reconnaître et on a besoin de retrouver un sens du collectif. Quand on fait de la politique, c'est qu'on s'intéresse à la vie publique, qu'on s'intéresse à la vie de la cité et donc on doit s'intéresser au-delà de personnes, au-delà d'individualité, au-delà même de nos propres circonscriptions, à ce qui dessine et à ce qui trace un avenir commun, tout simplement.
Mais alors, par exemple, si je vous cite des noms, Jean-Luc Mélenchon ou Tahabouafs, serviteur ou ambitieux?
Ni l'un ni l'autre. Enfin, son ambition m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est malheureusement les actes de ce triste personnage. Il aura fallu attendre longtemps pour que cette nouvelle alliance de gauche, enfin, fasse le choix de ne pas l'investir aux législatives. Mais le simple fait qu'ils aient envisagé de le faire, qu'il ait été investi, démontre non seulement la fragilité de cette nouvelle union, mais démontre surtout l'idéologie qui sous-tend évidemment de manière évidente Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'il y a d'autres candidats assez similaires à
Tahabouafs. Vous voulez dire que LFI s'est discrédité en présentant un candidat comme Tahabouafs?
Je sais pas s'ils sont discrédités, mais en tout cas, ils ont révélé qui ils étaient. C'est-à-dire, en effet, cette volonté de communautariser la société française, de la fracturer, en prenant des candidats qui, clairement, sont dans cette mouvance-là. Ils ne se sont jamais cachés, d'ailleurs. Mais vraisemblablement, ça les arrangeait bien au moment où il a été investi. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait un choix politique. Mmh. Ils ont fait d'autres choix politiques. Je pense cette candidate aussi qui a été investie alors qu'elle avait menti sur les événements à Tolbiac, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on a des choix idéologiques. Et c'est ça, une campagne législative. Au-delà, évidemment, de 577 campagnes, c'est quelle est l'orientation générale qu'on veut donner au pays. Est-ce qu'on prend le risque que demain, ce soit Jean-Luc Mélenchon et que ce soit celles et ceux qui l'entourent qui soient aux manettes du pays, soit du gouvernement, s'ils avaient une majorité parlementaire? Moi, je crois qu'on ne peut pas prendre ce risque.
Là, on parle de méthode de casting en politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas un peu trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas assez de filtres ou de réglages? On peut également revoir quelques cas à La République En Marche. Est-ce qu'on peut vous rappeler de l'affaire Griveaux, de l'affaire Castaner, de l'affaire Hulot? Il y a eu aussi des cas.
Mais dans ces cas-là, ils doivent évidemment non seulement être dénoncés quand il y a des erreurs, mais là, vous parliez d'un cas très spécifique dans les investitures de Jean-Luc Mélenchon, qui est un sujet idéologique, c'est-à-dire au-delà des très graves accusations dont il fait l'objet sur des vraisemblablement des violences faites aux femmes, voire même un viol, et ça c'est maintenant la justice qui doit être saisie, qui doit dire ce qu'il en est, et soutenir évidemment les femmes qui ont eu le courage de le dénoncer, y compris en interne, mais avant cette nouvelle affaire, il y avait d'abord un choix idéologique dans cette investiture. Et c'est ça qu'il faut d'abord dénoncer et dire. C'est un moment, regardez quels sont les candidats en présence dans cette campagne législative. Regardez qui seraient demain celles et ceux qui, au-delà du président de la République, composeraient un gouvernement, puisque c'est la majorité parlementaire qui en décide. Donc voter aux élections législatives, c'est soit confirmer le choix qui a été fait au moment de la présidentielle et donner une majorité au président de la République pour garantir la stabilité, garantir de la cohérence, garantir que les politiques publiques puissent être menées, ou au contraire, c'est prendre un risque de fracturation. Aujourd'hui, vraisemblablement, en tout cas dans ce qu'on entend et dans les enquêtes d'opinion, le seul qui serait en capacité d'avoir une majorité qui ne soit pas la nôtre, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est personne d'autre. Donc est-ce qu'on prend aussi le risque d'éparpillement? Est-ce qu'on prend le risque de division? Est-ce qu'on prend le risque que cette personne puisse accéder au pouvoir? Alors qu'encore une fois, les Français ont dit très clairement au moment de l'élection présidentielle qu'ils ne souhaitaient pas que la politique de Jean-Luc Mélenchon soit celle qui soit mise en place.
Aurore Berger, on l'a appris hier, la BCE s'apprête à relever les taux d'ici l'été, les taux d'intérêt. L'inflation est à 7,5% en zone euro. Sans le bouclier énergétique en France, on est à ce niveau-là, à 7,5%. On tape sur 10 dans les prochains mois. Même François Villeroy de Gallo, le patron de la Banque de France, généralement assez mesuré, tire la sonnette d'alarme. Comment est-ce que la majorité va régler le problème numéro un des Français, à savoir le pouvoir d'achat ?
Ça, vous l'avez dit, on a créé ce bouclier tarifaire sur les questions énergétiques. On a eu raison de le faire.
Il n'est pas pérenne, on ne peut pas laisser.
Non, mais on a dit qu'il serait maintenu jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est un enjeu social évident, majeur de pouvoir d'achat, parce que sinon, on aurait des factures qui auraient grimpé encore de 60-70%. Donc, ça veut dire les Français qui auraient été dans l'incapacité, tout simplement, de pouvoir cet hiver se chauffer. C'est concrètement ça qui se serait passé.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Et ensuite, il y a dès l'été, si nous avons une majorité parlementaire justement, l'idée de tout de suite avoir un projet de loi de finances qui permet d'avancer sur les enjeux du pouvoir d'achat, à la fois sur les enjeux de revalorisation du travail, parce que c'est quand même par le travail à un moment que le pouvoir d'achat peut être sécurisé, par la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, parce que là aussi on a un risque de fragilisation d'une partie de notre société, des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui, qui voient leur pension être gelée et qui donc, évidemment, ne peuvent pas suivre quand on a des taux d'inflation qui atteignent des niveaux que ma génération, par exemple, n'a jamais pu connaître, que nos parents, grands-parents ont connus, mais que ma génération n'a jamais connu. Donc c'est ça qu'il faut faire immédiatement, rendre du pouvoir d'achat aux Français. Vous l'avez dit dans votre journal avec la suppression définitive de la contribution à l'audiovisuel public, de la redevance. Mais, donc c'est continuer aussi cette dynamique de baisse de la pression fiscale aussi dans notre pays. Donc le travail, la réindexation des retraites sur l'inflation cet été, et puis continuer la baisse de la pression fiscale et maintenir le bouclier tarifaire jusqu'à temps que ce soit nécessaire, parce que sinon on a un risque de décrochage d'un certain nombre de Français.
Merci beaucoup Aurore Berger, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.